Radio Okapi.
À la présentation du journal, Jocelyne Moussaoupondé.
RDC, Rwanda, Ouganda et Angola, ce vendredi à Gatuna, Rwanda. À l'issue de cette rencontre, Kampala est appelé à vérifier les allégations selon lesquelles des forces négatives mèneraient des actions hostiles au gouvernement rwandais à partir du territoire ougandais. Une nouvelle structure médicale aux standards internationaux à Ngandajika, c'est l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe. L'initiative est de l'ONG Projet d'Itunga, spécialisé dans la prise en charge des patients souffrant de cancer de la peau et d'autres tumeurs. Et pour parler des interventions de 20 médecins volontaires espagnols dans cette nouvelle structure médicale, nous recevons ce soir Dr David Pestana, chef de service d'anesthésie à l'hôpital universitaire de Madrid. Bonsoir à tous. La République ougandaise devra vérifier les allégations de la République du Rwanda au sujet des actions qui proviennent de son territoire perpétrées par les forces hostiles au gouvernement rwandais. C'est la principale recommandation issue du 4e sommet quadripartite entre les chefs d'État et de gouvernement d'Angola, de la RDC, de l'Ouganda et du Rwanda tenu ce vendredi à Gatuna, Rwanda. Plus d'éclairage avec Paul Matendo.
Si ces allégations sont confirmées, le gouvernement ougandais prendra toutes les mesures pour y mettre fin, ainsi que des mesures préventives pour que cela ne se répète plus, souligne le communiqué final de ce 4e sommet. La même source ajoute qu'une fois cette recommandation remplie et communiquée au chef d'État, les facilitateurs devront se convenir dans un délai de 15 jours de la tenue de notre sommet, toujours à Gatuna, pour la cérémonie solennelle des réouvertures des frontières. Ce qui a pour corollaire la normalisation des relations entre les deux pays. Par ailleurs, João Lourenço d'Angola et Félix Tshisekedi de la RDC se sont félicités de la signature du traité d'extradition entre le Rwanda et l'Ouganda. Ce traité précise, le communiqué final reste le cadre juridique pour le règlement des affaires judiciaires. Ce sommet s'est tenu, rappelons-le, après celui de Luanda en Angola au début de ce février courant sur invitation du président angolais João Lourenço.
Direction Nord-Kivu, les villes de Butembo et de Beni étaient sans électricité l'avant-midi de ce vendredi. La centrale hydroélectrique des Ivoa, qui dessert ces deux villes en courant électrique, a été la cible d'une attaque Maïmaï tôt le matin. Ivoa se trouve à environ 10 km au sud-ouest de la ville de Butembo. D'après le directeur technique de l'énergie du Nord-Kivu, ENK, l'entreprise gestionnaire de la dite centrale, cette attaque est la quatrième depuis leur installation. Cette fois, c'est Maïmaï ont exigé la coupure du courant jusqu'à ce que la société ENK leur paye une rançon. Écoutez le directeur technique de ENK, Aaron Mafuta, au micro de Sadiki Aboubakar.
Ils avaient besoin de 1000 dollars. Alors, il y a 4 équipes de Maïmaï qui passent souvent chaque nuit à Ivuga pour demander l'argent, je ne sais pas. On va donner l'argent à qui et qui va rester. Donc, c'est chaque fois si vous donnez quelqu'un l'argent et l'autre vient, oh non, moi je suis. C'était juste le téléphone et l'argent qu'ils ont apporté.
Non, rien endommagé.
Non, non. Là, ils ont demandé au personnel qui reste à la centrale, s'ils voient seulement le courant à Beni ou à Butembo, ils vont saboter la machine. Donc comme on n'a pas de garde armée, donc on ne sait pas remettre le courant tant qu'il n'y a pas la sécurité. Ce n'est pas la première fois. Ça fait 3 ou 4 fois que nous sommes attaqués. Mais il n'y a personne qui intervient. Hein, donc nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Ni le gouvernement ne s'occupe de nous. Donc là, je voulais juste dire au gouvernement de nous aider un peu, de nous sécuriser et sécuriser aussi la cité. Oui, parce qu'ils ont demandé l'argent. Il faut qu'on leur donne l'argent pour qu'on redémarre la machine.
Et finalement, quelle sera la solution à ces problèmes?
Moi, j'entends que de avec le maire de la ville et tous les services, voir un peu ce que nous allons faire.
Notez que le courant est revenu vers midi après la descente sur les lieux du conseil urbain de sécurité. Le maire de la ville, Sylvain Kanyamanda, a rassuré sur les dispositions utiles au niveau de la centrale pour faire face à toute éventualité. L'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, INERBE, doit être considéré comme un des centres stratégiques de la RDC avec toutes les conditions sécuritaires qui s'imposent. C'est l'une des recommandations formulées par le directeur général de cette institution, le docteur Muyembe Tamfoum. C'était à l'occasion de l'inauguration hier jeudi des nouvelles structures abritant des laboratoires de haut niveau de sécurité. Et docteur Muyembe interpelle donc le gouvernement congolais et ses partenaires ainsi que les systèmes des Nations Unies de bien considérer le rôle de l'INERBE dans la sécurité sanitaire mondiale. Docteur Muyembe le dit au micro de Billy Van Lutumba.
Aujourd'hui, l'INERBE, en tout point de vue, mérite la confiance des autorités du pays et des partenaires parce qu'il est doté d'infrastructures qui répondent aux normes internationales. C'est pourquoi il s'avère indispensable de doter l'INERBE d'un enclos sécurisé avec des agents de sécurité commis à la garde 24 heures sur 24. Spécifiquement à la vice-primature en charge de l'intérieur de considérer désormais l'INERBE comme un lieu stratégique national qui mérite une attention particulière. L'INERBE manipule et conserve divers pathogènes dangereux et qui peuvent constituer une menace non seulement nationale, mais voire mondiale, surtout à cette ère du bioterrorisme. Au gouvernement, l'application dans les meilleurs délais du décret numéro 13/006 du 22 janvier 2013 du Premier ministre faisant de l'INERBE un établissement public. En effet, la motivation du personnel est l'élément clé de la réussite de toute entreprise.
Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Les malades de la cité de Ngandajika et de nombreux autres de la province de la Lomami ont désormais sur place une grande structure sanitaire pour leur prise en charge. Notre-Dame de Guadeloupe, c'est le nom de ce nouvel hôpital qui a ouvert ses portes lundi dans cette cité. C'est l'initiative de l'ONG dénommée Projet Ditunga. Cette structure prend en charge tous les malades, mais aussi ceux souffrant des tumeurs et des cancers de la peau. Depuis les débuts des consultations, plus de 20 médecins volontaires espagnols, spécialistes dans différents domaines, y sont actifs. D'amples précisions avec Esther Ndalafina.
Avec une capacité d'accueil de 100 lits, le centre hospitalier Notre-Dame de Guadeloupe est construit au standard international. Il est complètement équipé en matériel ultra-moderne et en médicaments en provenance de l'Espagne. Docteur Filemon Mariaro, médecin directeur, parle de certaines particularités de Guadeloupe.
Nous avons deux blocs opératoires et les deux sont bien équipés. Nous avons des bisturis électriques. Ici en Angique, à nulle part, on utilise les bisturis électriques. Nous avons des moniteurs cardiaque. Ça nous permet un peu de bien surveiller le malade pendant qu'il est sur la table d'opération.
Plus de 20 médecins volontaires espagnols ont déjà accueilli près de 1600 malades de Ngandajika et ceux venus d'ailleurs. Docteur David Pestania est anesthésiste.
On vient de faire 38 interventions multiples. Il y a des gens qui ont plusieurs tumeurs. Dans chaque personne, peut-être on a fait 4 ou 5 chirurgies pour les mêmes tumeurs.
Après avoir souffert des myomes pendant quelques années, Solange a enfin été opérée ce jeudi.
Ça fait pratiquement une année que j'ai saigné les règles prolongées qui peuvent faire 8 jours. Je suis contente.
Signalons que Notre-Dame de Guadeloupe a dirigé une première naissance dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Esther Ndalafina, Ngandajika, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, une campagne de lutte contre l'insalubrité est lancée dans la commune de Lemba. Dès lundi prochain, l'autorité municipale ne va plus tolérer la présence d'eau en sachet et des ordures devant tout établissement d'utilisation lucrative et des maisons d'habitation. Des taxes de la salubrité et amendes contre les récalcitrants sont instaurées. Ainsi, on a rappelé le bourgmestre de la commune de Lemba à ses administrés lors d'un échange qu'il a eu hier jeudi à l'Alliance franco-congolaise de sa juridiction. Reportage Jeff Ngoy.
17 400 000 francs congolais. C'est l'argent rétrocédé à chaque commune par le gouvernement central dans le cadre de l'opération Kinbopeto. Et pour agir, le bourgmestre de Lemba, Jean Saka, mobilise les opérateurs économiques afin de contribuer à la réussite de cette opération.
Il y a une disposition réglementaire qui interdit, par exemple, la vente de l'eau en sachet plastique. Et c'est comme ça que nous sommes venus rappeler à la population que désormais, cette interdiction est formelle. À Lemba, plus un seul sachet d'eau. Dès le lundi, la loi prévoit des sanctions, d'amende. Ceux qui seront attrapés en flagrance vont simplement être amenés à payer des amendes importantes.
Les tenanciers des bars, terrasses, boutiques et autres établissements lucratifs réagissent.
En tout cas, ce programme-là, nous devions tous nous impliquer, donc pour la réussite de Kimbo Peto. Mettre la propriété à chaque 10 mètres de notre espace. Et c'est vraiment une bonne chose.
Pour une population de Lemba estimée à plus ou moins 400 000 habitants, l'autorité municipale dispose déjà de 1 700 poubelles en plastique et 200 fûts de benne et une pelle chargeur pour l'évacuation des immondices, mais elle lance un appel à toutes les bonnes volontés pour accroître ses équipements.
Et puis cette pratique qui devient courante à Kinshasa, des plaques d'immatriculation arrachées de force par des éléments de la PCR sur les routes. $50 sont exigés pour reprendre sa plaque. Les conducteurs se disent harcelés et les juristes rappellent qu'au terme de la loi, arracher une plaque est une destruction méchante. Et quant à la police, elle répond que face à l'indiscipline des chauffeurs, il faut recourir quelquefois à la force pour faire respecter la loi. Grâce à Mzati s'est penché sur ce dossier, suivez son reportage.
État de droit.
Ces conducteurs expriment son ras-le-bol. Il dit avoir été plusieurs fois victime de la confiscation de sa plaque par des policiers. Des policiers qui, d'après lui, n'ont aucune compétence pour poser de tels actes. Il ne se passe pas un jour sans qu'on assiste aux accrochages entre policiers et conducteurs sur les routes de la capitale. Beaucoup de chauffeurs conduisent mal et sont des récalcitrants en tentant du côté de la police. Les chauffeurs accusent à leur tour les policiers de chercher par tous les moyens à les rançonner, notamment en arrachant les plaques. Papichu, chauffeur de taxi, témoigne.
Dernièrement, on a arraché ma plaque à Sosimat en voulant traverser pour prendre mon sens normal. Je vis un policier sauter directement sur ma plaque. On a failli même se battre parce que même si tu montres tous les documents, les policiers ne comprennent rien.
Ravir les plaques d'immatriculation, quelle que soit l'infraction du conducteur, est une destruction méchante et punissable par la loi, estiment les juristes. Maître Jean-Claude Katende.
Cette infraction peut conduire un policier à être traduit devant l'auditorat militaire et se voir éventuellement condamné.
Selon les témoignages recueillis auprès de plusieurs chauffeurs, il existait tout un bureau à l'inspection provinciale de la police ville-province de Kinshasa. Ici sont gardées toutes les plaques arrachées auprès des conducteurs. Pour retirer sa plaque, propriétaire du véhicule ou chauffeur doit débourser la somme de $50.
Les policiers arrachent les plaques et le commissaire provincial de la police assume cet acte. Général Silvano Kasongo affirme avoir instruit ses agents de confisquer les plaques d'immatriculation des conducteurs qui se comportent mal sur la route. Il confirme également que les plaques confisquées peuvent être retirées si le propriétaire du véhicule paye une amende à la banque. Le commissaire provincial de la police, le général Kasongo, explique sa décision au micro de Billy Van Lutumba.
On enlève le plat, c'est une instruction que moi, le commissaire professeur, j'ai donné, j'assume. Parce que quand vous comprenez, mais vous venez dans un sens contraire. Vous n'avez pas de carte rose. Vous n'avez rien. La police n'a pas une dépannaise. On va pas te laisser là-bas, sur la route, créer l'embouteillage. On te prend les plaques, tu viens à la police, tu payes, on te donne la quittance, mais tu vas à la banque payer.
Et quelle réponse donnez-vous à ceux-là qui fustigent cet acte d'arracher la plaque et faire payer une amende pensant que non, c'est illégal?
Mais l'amende, elle est transactionnelle. Non, on paye, il faut demander la quittance. Quand vous payez, on vous remet une quittance. Ou bien on vous donne un bordel, vous allez à la banque pour payer. Ou bien si vous êtes pressé, vous payez à la police, mais la police va vous donner une quittance. Un reçu. Parce qu'on n'a pas d'autres moyens à faire. Parce que les gens sont tellement têtus. Il y a des trafics d'influence, il y a des gens qui se croient au-dessus de la loi. On nous prend les plaques. Même les autorités, il y a même des ministres, on a pris des plaques. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Vous avez appris la fois passée, on avait arrêté le véhicule d'une grande autorité de la République pour prendre des plaques, sans plaques. Je crois que l'effort doit être des côtés. La police fait l'effort. Il faudrait que les chauffeurs et autres aussi puissent bien se comporter.
Actualité internationale. Quelques 4000 personnes sont déplacées chaque jour depuis le début de l'année par les violences au Burkina Faso, confrontées à une intensification des attaques djihadistes. Précision donnée ce vendredi par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. En 2019, la moyenne était de 1400 déplacés par jour à la suite d'attaques commises contre les civils et les autorités locales. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à l'agence France Presse.
L'invité.
Je l'ai dit tantôt, dans la province de la Lomami, une nouvelle structure sanitaire construite aux standards internationaux est désormais opérationnelle dans la cité de Ngandajika, à 90 km de Mbujimayi. Cette structure, dénommée Notre-Dame de Guadeloupe, est une initiative du projet d'Itunga, une ONG basée à Ngandajika. Plus de 20 médecins volontaires espagnols, spécialistes dans différents domaines, y sont actifs. Docteur David Pestaña, médecin espagnol et chef de service d'anesthésie à l'hôpital universitaire de Madrid, est notre invité. Il s'entretient avec Esther Dalafina.
Monsieur David Pestin, vous êtes médecin espagnol. Vous vous retrouvez aujourd'hui en Ngandajika. Est-ce que nous pouvons avoir l'idée sur le matériel que vous avez amené ici en Ngandajika pour cette nouvelle structure sanitaire?
On a porté quelques matériels pour des différentes zones de l'hôpital, différents propos. Et on commence par les laboratoires. On a une machine d'analyse pour la biochimie et aussi pour faire l'analyse du sang de ce qu'on appelle l'hématocrite, les plaquettes, les leucocytes, ce sont toutes les cellules qui sont dans le sang. On a le matériel pour faire aussi la coagulation et microscope pour faire des diagnostics, surtout microbiologiques. Après, si on sort du laboratoire, on va à la salle opératoire. On a une autorisation pour les patients qui vont être anesthésiés. Alors, on peut avoir l'électrocardiographie, on peut avoir la pression non-invasive, on a aussi la saturation d'oxygène et même la température. Après ça, et on a les aspirateurs, des lampes chirurgicales, on a des machines de stérilisation, on a des bistouris électriques. Alors, comme ça, on a deux salles opératoires qui sont complètes. Dans la salle de réanimation, on a le déconcentrateur d'oxygène. Comme ça, s'il y a quelqu'un avec un détresse respiratoire, on peut améliorer l'oxygénation. Il concentre l'oxygène de l'air. On a aussi dans le néonatologie, on a je me rappelle comme se dit en français ça, la table chauffante. On a la banque de sang. Et je crois que j'ai dit déjà des matériels de stérilisation. On a un stérilisateur pour les instrumentaux chirurgicaux. Et on a même des microscopes. Ça, on nous a donné. On l'a en Espagne et on espère l'envoyer dès qu'on aura l'argent. Ah, j'avais oublié des matériels d'échographie. On a aussi 4 échographies qu'on a portées.
Ce matériel provient de l'Espagne.
Oui.
Maintenant que vous êtes là, c'est pour un temps. Après votre départ, comment est-ce que ça sera utilisé?
Et non, ça va rester ici. Ça, maintenant, c'est pas espagnol, c'est congolais le matériel. C'est une donation. On est en train de former les gens pour qu'ils connaissent comment travailler avec ça. Et en plus, on voit qu'on a commencé à faire des opérations par des médecins locaux et ils utilisent le matériel comme nous. Ils les stérilisent. Il utilise les bistouris électriques, même avant, et tous les instruments chirurgicaux qu'on a portés, tous les matériels, les pinces, les ciseaux, on a beaucoup de boîtes avec plein de matériels de chirurgical.
Depuis que vous êtes arrivé, vous avez fait combien d'interventions chirurgicales?
On vient de faire, en ce moment-là, il y a 38. Quelques-uns sont interventions multiples, je veux dire, il y a des gens qui ont plusieurs tumeurs. Alors, dans chaque personne, peut-être on a fait 4 ou 5 chirurgies pour les mêmes tumeurs, et ça compte comme patient, d'accord? Et les médecins congolais, ils ont déjà fait, je crois que 8 chirurgies, mais ils ont fait une partie de la chirurgie qu'on compte comme espagnol, vraiment, sont faits par les Congolais, avec notre aide, mais ce sont eux qui ont fait la chirurgie.
Vous avez aussi amené les produits de l'Espagne?
Ah oui.
Est-ce que ces produits peuvent être trouvés sur le marché de Ngandajika?
La plupart, je crois que oui, mais pas tout. C'est ça précisément que je suis en train de parler avec le directeur médical de l'hôpital, finalement, parce qu'il faut trouver des fournisseurs pour beaucoup de choses qu'on a laissées ici, mais qui vont disparaître, parce qu'on les utilise très rapidement. Alors, il faut trouver des fournisseurs locaux. Et on ne peut pas apporter ça d'Espagne. Ça prend beaucoup de temps, et c'est très cher à l'apporter quand il y a ici. Je suis sûr qu'il y a la plupart des choses qu'on peut trouver ici. À Kinshasa, il y a des grands hôpitaux aussi, là où font toutes les choses. Alors, je crois que oui.
Combien de services vous avez installés et les services qui fonctionnent déjà?
Selon le nombre de spécialistes qu'on vient ici, parce que ce sont des missions volontaires. Cette année, on est venu, on commence par les spéciales médicales, dermato, infectieuse, préventive et médecine générale, ça fait 4. Et après, vous avez la chirurgie générale, chirurgie plastique, ça fait 6, et l'anesthésie, ça fait 7.
Docteur David Pestaña, je vous remercie.
Merci à vous.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.